France Culture.
Talmudique. Dans leur livre d'histoire de 1926 destiné aux élèves de 6e, Albert Mallet et Jules Isaac écrivaient à propos du peuple hébreu de l'Antiquité que le seul apport à l'humanité qu'on lui devait était l'invention du monothéisme. Sans doute auraient-ils formulé cet apport différemment aujourd'hui, exactement un siècle plus tard, en considérant que ce monothéisme fut aussi le don non seulement d'un ensemble de textes, la Torah, les prophètes et les écrits, en un mot, la Bible hébraïque ou Ancien Testament, mais aussi le don d'un art de la lecture. D'où l'expression « de peuple du livre » à laquelle il faut adjoindre, pour être plus précis, « peuple de lecteur ». Oui, c'est comme « peuple du livre et de lecteur » que le peuple juif s'est construit à travers l'histoire, en approfondissant et vivifiant cet art de la lecture par tout un ensemble de commentaires qui virent le jour dans les différentes communautés juives dans le monde et qui aussi irrigua le patrimoine mondial de la littérature juive et non juive et des sciences humaines en général. Certains de ces commentaires se sont plus particulièrement consacrés à cet art de lire, en en montrant la méthode, en en enseignant les règles subtiles allant de la grammaire à la philologie, en passant par les jeux de mots, jeux de lettres et de nombres, faisant jouer les intertextualités en une danse infinie et donnant à tout ce monde littéraire une élévation vertigineuse et joyeuse capable de réjouir les cœurs et les âmes. C'est le cas du célébrissime ouvrage intitulé « Le livre du Zohar », « Le livre de la splendeur » ou « De la clarté » en français. Un livre qui, depuis sa parution au XIIIe siècle, n'a jamais cessé d'être commenté et d'inspirer des penseurs d'horizons divers, et c'est le cas de la lecture qu'en a fait une des figures intellectuelles majeures du monde philosophique et psychanalytique du XXe siècle, Eliane Amado-Lévy-Valency, dans un livre initialement paru en 1996, qui vient d'être réédité en poche aux éditions de l'Éclat sous le titre « La poétique du Zohar », toujours accompagné de la très belle et importante préface de Charles Mopsik. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir son éditeur, Michel Valency. Michel Valency, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Joaquin.
Michel Valency, quelle est l'histoire de ce livre et pourquoi le rééditer aujourd'hui? Et tout d'abord, qui est Eliane Amado-Lévy-Valency?
Elle est née à Marseille en 1919, sa mère est originaire de Salonique. Et elle sera d'ailleurs déportée à Auschwitz en 1944. Sa famille paternelle fait partie de ces Lévy de Valencia en Espagne, qui, après 1492, iront en Toscane à Livourne, deviennent là les Lévy Valency, avant de se disperser dans le bassin méditerranéen. On retrouve des Lévy Valency en Tunisie, en Algérie, et dans le sud de la France, où vraisemblablement les ancêtres d'Eliane Amado-Lévy Valency s'installeront. Elle va commencer des études de philo, brillante élève. Les études seront interrompues par la guerre, évidemment, même si, après un premier diplôme d'études supérieures qu'elle passe avec Jean Val, elle va suivre pendant 3 mois à Toulouse les cours d'un étrange philosophe qui publiera alors sous le nom de André Dumez un pamphlet intitulé « Psychoanalyse de l'antisémitisme » et qui n'est autre que Vladimir Yankelevitch, qui doit enseigner à l'époque sous un nom d'emprunt avant de rejoindre la résistance. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'amitié entre Yankelevitch et Amado-Lévy Valency va se nouer. Elle est mariée à l'époque avec l'avocat Max Amado, dont elle divorcera, mais avec de qui elle restera très proche en fait toute sa vie. Et elle passe la guerre en se cachant dans plusieurs endroits du sud de la France ou du centre de la France avec Max Amado. Et elle ne reprendra ses études qu'après la guerre. Selon les biographies, elle est reçue première à l'agrégation de philo en 1950 ou en 1948, ça dépend de là où on cherche les renseignements. Elle passe une thèse en 63 et elle entre au CNRS après un enseignement à la Sorbonne.
Elle entre aussi à un certain moment en psychanalyse, Michel Valency.
Oui, elle devient parallèlement psychanalyste après une analyse didactique avec Daniel Lagache. En fait, toute son œuvre est au croisement de cet engagement philosophique, de cette pratique de la psychanalyse et d'un ancrage de ces deux, appelons-les disciplines, dans le judaïsme, dans sa langue et dans sa pensée. Et le judaïsme ne vient pas s'ajouter comme un troisième sujet à la philosophie et à la psychanalyse, mais d'une certaine manière, il les englobe. il les harmonise pour leur donner une dimension particulière. C'est pourquoi, tandis qu'elle exerce la psychanalyse dans sa maison de Saint-Mandé, elle prendra une part active au colloque des intellectuels juifs de langue française, aux côtés de, pas d'André Néher, mais entendu maître d'œuvre de ce projet, et qui fut son ami, et deviendra très proche de tout ce cercle, donc Yankelevitch, Manitou, et dans une moindre mesure, je crois, Lévinas.
Michel Valency, c'était une des rares femmes dans les milieux intellectuels de l'époque.
C'était non pas une des rares femmes, c'était la seule femme de ce qu'on a appelé l'école de pensée juive de Paris. Féministe, je ne sais pas. Elle n'en tire en tout cas aucune gloire particulière, mais elle garde toujours à l'esprit cette phrase de Karl Marx qu'elle cite plusieurs fois dans plusieurs de ses ouvrages et que je ne résiste pas à vous citer parce que c'est toujours agréable d'entendre des belles choses. Marx écrit, et Amadou le cite, « Le rapport naturel et nécessaire de l'homme à l'homme se fonde sur le rapport naturel et nécessaire de l'homme à la femme. » Ce qui signifie, dit Marx, qu'une civilisation peut être jugée à la place qu'elle donne à la femme dans son face-à-face avec l'homme. En 1969, Eliane s'installe à Jérusalem, elle enseigne à Bar-Ilan, et elle continue d'exercer la psychanalyse aussi bien en Israël qu'en France, où elle a gardé une clientèle. Elle écrit en français, même si elle enseigne en hébreu, et par son œuvre, par sa personnalité, elle incarne finalement cette complémentarité de la diaspora et de la terre d'Israël.
Venons-en à l'édition de ce livre, La poétique du Zohar, que vous rééditez. J'ai cru comprendre que dans un premier temps, ce n'est pas vous qui êtes allé vers ce livre, mais c'est ce livre qui est venu vers vous, Michel Valency.
Oui, en effet, c'est un livre qui nous est arrivé, comme on dit. C'est Charnopsy qui nous a envoyé le manuscrit et j'ai rencontré à ce moment-là Eliane Amadou dans sa maison de Saint-Mandé, ça devait être en 95, pour discuter avec elle de la manière dont on pourrait l'éditer, etc. Et ça a donné lieu à de très longues conversations, très amicales, avec ses nombreux chats autour, dans la maison et dans le jardin. Et en fait, elle aimait beaucoup parler de tas d'autres choses. On parlait d'édition, on parlait des itinéraires, on parlait de la philosophie, de littérature, et on arrivait, enfin, j'avais du mal à la faire se concentrer sur le livre lui-même, auquel elle tenait, bien entendu, mais elle voulait faire connaissance d'abord. Et avec sa diction assez lente, c'est une ironie à peine dissimulée d'ailleurs dans la voix et le regard, on est devenus amis. Elle m'a confié qu'à l'époque, elle venait de rencontrer un nouvel éditeur avec lequel elle a travaillé ensuite et de manière assez régulière, qui était Philippe Pignard, qui avait créé une maison d'édition financée par un laboratoire pharmaceutique à l'époque, qui s'appelait Les Empêcheurs de penser en rond. Et c'est vrai que concernant Eliane, qui était une empêcheuse de penser en rond, le titre était parfait. Elle m'avait dit donc, indépendamment de ce travail avec Les Empêcheurs de penser en rond, la poétique du Zohar était pour elle un livre un peu à part. L'écriture en avait été suggérée par Jean Brun, je crois qu'il voulait le publier dans une collection, mais Jean Brun était mort en 94, donc sans que le livre soit terminé. Et elle avait longtemps travaillé sur ce livre et elle l'a envoyé à Charles Mopsik pour avoir son avis. Il traduisait le Zohar, je ne sais pas si elle le connaissait, mais c'était comme ça une relation qu'elle avait voulu établir. Et c'est comme ça que Charles Mopsik nous a envoyé l'ouvrage. Quand Charles lui a dit qu'il l'enverrait aux éditions de l'Éclat, elle avait été très amusée à l'idée d'être publiée par un éditeur qui portait, elle avait dit, un morceau de son nom. Et voilà, et c'est donc par l'intermédiaire de Charles Mopsik que le manuscrit est arrivé. C'est ensuite qu'il a accepté de faire cette magnifique préface qui est aussi un hommage qui rend à Eliane Amadou Lévy-Valency.
Alors on va y revenir sur cette préface, mais pour bien comprendre l'enjeu de l'ouvrage d'Eliane Amadou Lévy-Valency, il faut d'abord découvrir plus précisément ce qu'est le Zohar, puisqu'elle en fait une lecture. Qu'est-ce que le Zohar, ce livre majeur de la pensée juive, qui a réussi le tour de force, comme le dit Gershom Scholem, d'être le seul livre devenu canonique à côté de la Bible et du Talmud, Michel Valency?
Oui, Gershom Scholem reste au plan international celui qui a le plus contribué à faire connaître l'histoire du Zohar en identifiant de manière certaine et l'auteur et le lieu de son écriture. Ce qu'il faut savoir avant d'entrer dans la poétique du Zohar est au cœur même de l'idée que Scholem s'est faite du Zohar quand il a commencé à l'étudier dans les années 20 et qu'il exprime dans la première conférence de 1925 à l'Université hébraïque de Jérusalem qui vient de naître. Qu'est-ce que Scholem dit en 1925? En gros, Il dit que le Zohar est un livre très ancien, qui a la forme d'un midrash, qui est composé de fragments très divers, écrits sur une très longue période, si longue, écrit Scholem, qu'il contient encore des rudiments de la pensée mystique originale de Rabbi Shimron Bar Yochai. On est en pleine mythologie. C'est donc un texte quasiment révélé, écrit ou transcrit par ce grand Tana du IIe siècle, alors qu'il est enfermé dans une grotte avec son fils pendant 12 ans. Enfin, vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Selon la légende.
Voilà, selon la légende, et qui reçoit chaque jour la visite du prophète Élie, qui veille à le nourrir et à l'abreuver en faisant des miracles. Enfin bon, on est en pleine mythologie. Il se trouve encore des gens aujourd'hui qui croient à cette version, ou en tout cas lisent le Zohar dans cette perspective. Plus tard, Scholem, dans les grands courants de la mystique juive, revient sur le Zohar, et ce nouveau texte témoigne d'un changement radical de perspective. C'est très important de signaler ça, parce que, pour ce qui concerne Scholem, on peut dire que sur la plupart des sujets, il s'en est toujours tenu à ce qui avait été son intuition première, jamais démenti et enrichi toujours de nouvelles découvertes. Pour le Zohar, exceptionnellement, Scholem s'est trompé. Et non seulement il s'est trompé, mais il a reconnu qu'il s'était trompé sans aucune hésitation. Le Zohar a été écrit en Espagne au XIIIe siècle, et l'auteur n'en est autre que le seul Moïse de Léon. Scholem le prouve par toute une série de preuves textuelles, historiques, etc. Et c'est maintenant un fait acquis. Scholem s'est trompé entre 1925 et 1938 aussi parce que c'était dans l'intention de l'auteur, Moïse de Léon, de tromper son lecteur en lui faisant croire à l'origine ancienne du livre. Ça donnait une assise, finalement, à sa pensée. Et il a rajouté ça en l'écrivant en araméen, un araméen d'ailleurs presque charabiesque quelquefois, et la présence de Shimon Bar Yochai comme personnage central du volume accentue encore cet aspect-là. C'est donc dans la nature même du Zohar, et ça c'est un peu mon interprétation, de tromper celui qui s'en approche pour le mettre à l'épreuve d'une lecture évidemment difficile et complexe.
Et que veut dire que le Zohar trompe ? La formule semble à la fois étrange et importante.
Le Zohar ne trompe pas au sens où il oriente dans la mauvaise direction. Il trompe parce qu'il déroute. Il déroute parce qu'il met le lecteur dans une situation d'acosmie. L'acosmie, c'est une théorie qui nie la réalité du monde fini, notre cosmos, parce qu'elle le considère comme illusoire. Et dans cet état d'acosmie, le lecteur est confronté à l'absolu infini du livre et non à sa réalité matérielle. Ainsi, le Zohar trompe au sens où il nous détourne de l'illusion qu'est la réalité du monde fini, et en ce sens, et c'est là toute la dialectique du judaïsme, en nous trompant, il nous détrompe. Il nous donne accès à une réalité non illusoire. Et c'est très précisément, et c'est pour ça que j'ai fait ce long détour, c'est très précisément cet accès immédiat à la réalité non illusoire que nous offre Eliane Amado-Lévy-Valenzi dans la poétique du Zohar. Et ça s'exprime dans tous les titres de chapitres du livre, sur le masculin, le féminin, le problème du mal, la présence de la mort, le rapport à la terre, etc. etc.
On comprend bien que le Zohar est un livre mystique, écrit en araméen. Mais ce que fait le Zohar, au-delà d'être un commentaire du texte biblique, je dirais presque ligne à ligne, il offre un art de la lecture. Et je pense particulièrement au célèbre Pardès, que sont les quatre niveaux de l'interprétation de l'herméneutique hébraïque. C'est l'idée de niveau de signification, et c'est l'idée qu'il existe dans tout texte un sens dévoilé et des sens cachés à découvrir, et peut-être faudrait-il dire à construire, Michel Valenci, un peu comme le travail du psychanalyste qui écoute les rêves de ses patients.
Oui, cette place du rêve est essentielle dans la lecture que fait Eliane du Zohar. Elle cite d'ailleurs très souvent, y compris dans ce livre, mais aussi ailleurs, enfin très souvent dans son œuvre, une phrase qu'elle attribue à Freud, selon laquelle il lui était naturel de lire un rêve comme un texte, parce qu'il appartenait à un peuple qui lisait les textes comme des rêves. Ça, c'est la forme qu'emploie Freud et Amado. Et le Zohar est très caractéristique de cette symbiose, cette harmonie entre le rêve et le texte. Et Scholem dira que c'est un roman mystique pour lui. Eliane revient sur ce thème, d'ailleurs, dans l'un des épilogues du livre qu'elle intitule « Les oiseaux ». Elle cite cette phrase extraordinaire, je trouve, du Zohar, qui dit « Quand la prophétie se tait, le ciel parle par la voix des sages. À défaut de sages, l'avenir est révélé par les rêves. Et à défaut des rêves, on peut le lire dans le pépiment des oiseaux. » Et le Zohar ajoute encore « Le pépiment des oiseaux, les enfants ou les insensés. » C'est assez curieux comme formule. Et la poétique du Zohar, malgré sa difficulté, qu'il ne faut pas cacher, c'est un livre difficile, combine dans sa lecture de la réalité non illusoire ce pépiment des oiseaux, les paroles d'un enfant et, disons, les fulgurances des insensés.
Alors on comprend que c'est un ouvrage à la fois, je parle de, à la fois de l'ouvrage du Zohar lui-même, mais de l'interprétation qu'en fait Eliane Amado-Lévy-Valency dans son livre qui s'appelle « La poétique du Zohar », auquel elle décide de s'atteler, non pas de façon érudite, de manière poétique. Qu'entend-elle exactement, Michel Valency, par ce vocable très riche de « poétique » qui a des sens souvent divers?
Oui, effectivement, c'est un terme très complexe. Enfin, disons qu'Eliane entend le terme poétique, en tout cas dans une première partie de l'ouvrage, au plus près de son sens étymologique, c'est-à-dire le grec « poiesis », qui n'est autre que l'action de faire, ce faire qui précède toute chose, qui est l'acte de création originel. Un autre philosophe qui m'est cher et qui est aussi curieusement cher à Eliane Amado, qui est Jules Lequay, un philosophe chrétien breton du 19e siècle, écrivait « faire et en faisant se faire ». Et donc, la poétique du Zohar consiste à montrer les effets d'une parole, son action créatrice sur le lecteur et ce qu'elle crée en lui en tant que lecteur. Cette préséance du faire sur toute autre opération est fondamentale dans le judaïsme. Eliane le rappelle dans plusieurs de ses ouvrages avec la célèbre formule Naaseh venishma, nous ferons et puis nous écouterons au moment de la remise des tables de la loi au peuple juif. C'est une formule qu'on interprète souvent comme une forme de soumission de l'homme face au commandement divin, mais qu'on peut comprendre aussi plus littéralement comme une sorte de préséance de l'action sur l'écoute, comme si le faire primordial, déterminer l'écoute secondaire et lui donner sa forme. Le Zohar agit créativement sur le lecteur en transformant son écoute globale du monde.
Cette écoute globale du monde, Charles Mopsik l'a admirablement cernée dans sa préface à ce livre d'Eliane Amado-Lévy-Valency. Une lecture qui, dit Charles Mopsik, est une rencontre existentielle. Pour lui, toute lecture, mais celle du Zohar en particulier. Et il va même jusqu'à dire que la lecture, de manière générale, et celle du Zohar en particulier, est comme une rencontre amoureuse avec le texte, Michel Valency.
Oui, cette préface de Charles est un vrai chef-d'œuvre. C'est une approche du texte. Comme on l'a dit, c'est lui qui nous a suggéré de publier ce livre. Il était à ce moment-là en pleine traduction du Zohar lui-même, depuis des années, commencé à la fin des années 70. Traduction hélas inachevée, puisque Charles Mopsik a pris congé du monde en 2003, à l'âge de 46 ans, laissant toutefois une œuvre incontournable, si on veut comprendre un peu ce que sont les mystères de la Kabbale. En fait, le point de départ de Mopsik, qui souscrit à toutes les découvertes de Scholem et de tous les savants qui ont écrit sur le Zohar, dont il fait lui-même partie, c'est que Eliane Amado-Lévy-Valency nous invite à partager sa lecture du Zohar, comme si, et c'est ce qu'écrit Charles, comme si ce livre avait toujours été écrit. Comme si les conditions concrètes et temporelles de sa rédaction matérielle n'avaient qu'une importance anecdotique et qu'il existait depuis toujours, dans l'empyrée des essences éternelles, dit Mopsik, un livre appelé Zohar. Il en va du Zohar comme de l'amour de David et Bethsabée, inscrit dans le livre de la vie depuis le premier jour de la création du monde. Il est très remarquable qu'un savant de sa trempe, après des années d'études et de lecture de cette œuvre difficile, fasse un constat d'humilité et de générosité que l'essentiel d'une œuvre n'est pas dans le commentaire scientifique et philologique qu'on peut en faire, mais son approche immédiate, poétique dans tous les sens du terme, et que ce qui compte, c'est cette lecture première, créatrice du lecteur, qui n'est plus seulement un liseur, pour reprendre la formule de de Mopsik. Mopsik écrit « J'ai lu avec une joie étonnée le livre d'Eliane Amado-Lévy-Valency. Il m'a rappelé ce que j'étais en passe de perdre de vue, voire d'oublier. Malgré les travaux historiques et les investigations critiques qui se sont multipliées sur le Zohar à la suite des recherches de Gershom Scholem, il existe encore et toujours, et je serais tenté de dire malgré tout, dit Mopsik, un livre qui est le Zohar et que tout un chacun peut lire à son gré en se faisant sujet de sa lecture. » Et plus loin, Charles rajoute « Le livre d'Eliane Amado-Lévy-Valency a renforcé ma conviction selon laquelle le Zohar est encore un livre à lire et non pas seulement un objet d'études savantes ou de pieux commentaires, mais qu'il est doté d'une poétique, à savoir d'une écriture singulière qui s'obstine à toucher les âmes prêtes à le recevoir. »
شوفك بني وفي قلبي معدي حيلة نشوفك بني وفي قلبي معدي حيلة نصرف بالالف والمية لحساب ولكيلة قامك عالي يا حلالي اللي ما في بالي هزهالي ندفع لك مالي بالمليح اللي ما تكفيلي وتحاضيني يا سيد ربي شمعون بروحي الغالي بار
Nathan Cohen et son ensemble dans un chant intitulé Bar Yochai, un chant du folklore judéo-tunisien, à la fois chanté en arabe et en hébreu. Pourquoi ce choix, Michel Valency ?
Ce chant à la gloire de Simon Bar Yochai fait partie des très nombreux hommages que les juifs de par le monde, et peut-être plus précisément les juifs en terre d'islam, ont consacré à Bar Yochai, qui ont entretenu le mythe de l'auteur du Zohar. Pourquoi ce choix ? Par probablement atavisme judéo-tunisien. Cette fusion judéo-arabe, en fait, puisque c'est la langue dans laquelle ce chant est chanté, et n'est pas absente du tout de la poétique du Zohar, elle est même assez présente. Le livre a été écrit au moment des, qu'on a appelé les accords d'Oslo, et on y trouve un très beau chapitre intitulé « Fraternité et fratricide ». Cette idée, cette fusion judéo-arabe est très présente aussi dans les autres écrits d'Eliane qui a œuvré comme elle a pu au rapprochement des Juifs et des Arabes. Dans la poétique du Zohar, elle rappelle d'ailleurs que le mot arabe, arav en hébreu, s'écrit en hébreu aïn, resh, bet, trois lettres, tandis que le mot hébreu, ivri, s'écrit aïn, bet, resh. Donc,
c'est une anagramme.
Aujourd'hui, l'étymologie et le jeu des racines ne peuvent pas grand-chose au mauvais tour que prennent ou que nous ont joué les événements, mais on ne peut que souhaiter qu'un jour les mots reprennent leur sens premier. C'est aussi l'esprit, je crois, dans lequel était Eliane Amado-Lévy-Valency.
Elle dit, Eliane Amado-Lévy-Valency, dans l'un des derniers chapitres du livre, concernant le philosophe et le poète, que la poétique, là on revient au titre de son livre et au sujet de son livre qui est « La poétique du Zohar », elle dit « La poétique, comme la philosophie, se sert de mots, mais ils ne sont jamais ou ne doivent jamais être enfermements. Le mot, dit-elle, les mots suggèrent, ils ont valeur d'éveil. Le philosophe digne de ce nom est toujours un peu poète, ou beaucoup, et le poète un peu ou très philosophe. Dans les deux cas, il s'agit d'une saisie du réel infinie et par là même inachevée. Il n'y a pas de place pour un résumé éclairant. Fin de citation. On a l'impression qu'il y a comme une philosophie de la caresse qui parcourt toute la poétique du Zohar, c'est-à-dire le livre d'Eliane d'Olivier Valency et le Zohar lui-même, Michel Valency.
Oui, cette idée de caresse, que l'on retrouve d'ailleurs chez Lévinas, vient directement dans la poétique du Zohar de ce que Eliane considère comme l'œuvre qui sous-tend tout le Zohar, à savoir le Cantique des Cantiques. Il est remarquable d'ailleurs que le Zohar qui s'est concentré sur le commentaire de la Torah, il y a aussi des parties du Zohar qui sont consacrées à d'autres livres du Tanakh, de la Bible, dont une justement consacrée au Cantique des Cantiques. C'est selon Mofik d'ailleurs l'une des plus belles sections qu'il a traduite en 1999. Le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, est comme son nom l'indique un shir, un chant. Le chant des chants, le chant absolu. Et il donne au Zohar comme sa partition, non pas au sens de la répartition des chapitres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fonction des parachiotes, des sections de la Torah qui rythment le livre et le temps de l'année, mais au sens de sa musique intérieure, qui prend la forme d'une symphonie. Eliane Amado écrit « Le cantique est comme le la que donne le chef d'orchestre pour que s'accordent les instruments et que s'organise la symphonie du Zohar ». Et cette image de la symphonie revient plusieurs fois dans la poétique du Zohar qui, pour elle, s'apparente à ce qui fait l'unité d'une symphonie en ce qu'elle relie les notes éparses.
C'est très intéressant, cette question de la musique. C'est effectivement très prégnant quand on lit ce livre d'Eliane Amado Lévy-Valency. Et je pensais, quand vous venez d'évoquer à la fois la musique et la philosophie et la poésie, je pensais à Jean Kelevitch, dont Eliane Amado Lévy-Valency était très proche.
Oui, en effet.
Comme vous l'avez dit au début. Et chez Jean Kelevitch, l'on retrouve cette poétique musicale et cette passion pour l'inachevé. Il y a chez eux deux un art de la lecture commun qui souligne des thèmes majeurs de la poétique du Zohar, à la fois l'inachevé et l'itinéraire, deux thèmes qui rejoignent une autre question qui est celle du temps. Le temps comme mystère qu'elle a exploré toute sa vie, Eliane Amado Lévy-Valency, qui est aussi la question de la postérité et de la transmission. On peut dire que son œuvre a fécondé toute une jeune génération de chercheurs, de penseurs et de lecteurs, et que nous sommes là devant une œuvre riche de tout un immense avenir, Michel Valency.
Oui, en effet, il est remarquable que les sources d'Eliane Amado sont bien entendu des grands philosophes, écrivains, passés de sa génération, mais elle s'est intéressée de très près aussi à des jeunes auteurs, des hommes, des femmes, philosophes, écrivains ou poètes, dont les œuvres sont encore à leur début quand elle écrit. Et qu'elle cite, c'est assez amusant de voir comment elle les cite presque sur le même plan que Bergson, Bachelard, Claude Vigée, André Néer, Manitou, Yankelevitch, etc. Et parmi cette nouvelle génération figurent dans la poétique du Zohar les noms de Bernard Chouraki, par exemple, ou de Dov Herzenberg, ou du poète Alain Suède. Elle évoque aussi un jeune rabbin, d'ailleurs auteur d'un livre qu'elle a grandement apprécié, Concerto pour quatre consonnes sans voyelles, un certain Marc-Alain Wachnin, promis un bel avenir, pense-t-elle, y compris radiophonique, mais ça elle ne le savait peut-être pas encore. Et sans oublier Betty Rothman ou Marlène Zarader pour, disons, la part féminine de ses sources.
Il y avait cette générosité, cette humilité, cette reconnaissance pour la jeune génération. Et je crois que nous sommes très nombreux à lui devoir notre manière de penser aujourd'hui, car elle fut une source d'inspiration et d'encouragement pour de très nombreux jeunes chercheurs que nous étions à l'époque, comme vous venez de le dire. Elle nous a encouragés par son art de la lecture libre, par son ouverture philosophique et son interdisciplinarité, qui, je pense, ont eu un impact bien au-delà du monde des études juives, Michel Valency.
Oui, oui, ça ne fait aucun doute. Je crois qu'elle a été, à un moment donné, très lue. Par exemple, cette nouvelle maison d'édition qui se crée, Les Empêcheurs de penser en rond, ont beaucoup œuvré à faire connaître son œuvre. Elle meurt à Jérusalem en mai 2006, sans descendance. Et d'une certaine manière, sans disciple non plus. Parce que son enseignement se diffuse dans toutes les strates de la pensée juive d'expression française du second XXe siècle et de ce début du XXIe, sans qu'on reconnaisse forcément sa paternité, mais en fait il faudrait dire sa maternité et tout ce qu'on lui doit dans la perspective d'un judaïsme ouvert. Et je crois qu'elle a vraiment là sa place. Il ne fait pas de doute qu'elle a marqué le judaïsme français d'un sceau indélébile où philosophie et poésie, tradition et innovation cohabitent, où psychanalyse et mystique aussi se rejoignent, le tout, et c'est là aussi sa singularité, portée par une écriture d'une très grande force poétique et littéraire, qui la met au rang, par exemple, d'une autre philosophe qu'elle n'a pas connue, je pense qu'elle se serait bien entendue, espagnole, la grande philosophe espagnole Maria Zambrano, pour ne citer qu'un seul exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres.
Merci Michel Valency pour cette belle découverte de la poétique du Zohar et pour ce bel hommage à cette grande dame et grande lectrice. Je rappelle le titre du livre d'Eliane Amado-Lévy Valency dont nous venons de parler, La poétique du Zohar, avec une préface de Charles Mopsik. C'est aux éditions de l'Éclat dans la collection Poche. Un vrai bonheur pour l'âme et l'esprit. Merci encore Michel Valency.
Merci à vous et merci de votre accueil.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques d'Eliane Amado-Lévy Valency et de notre invité Michel Valency sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Koltouv, Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.